Irvin est une femme formidable, actrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse, Agnès Jaoui. Elle évoquera pour nous un film qui lui est cher et qui réunit musique et cinéma, Peau d'âne, de Jacques Demy.
Peau d'âne ?
Peau d'âne !
Peau d'âne !
Parking de nuit, vendredi, 21h-22h. France Inter.
Avec l'âge, il est rare que les hommes fassent la cour.
France Inter et France 4 présentent Oxmo Puccino. Complet le 5 mai à La Cigale. Date supplémentaire le 6 mai à La Cigale.
Soleil du Nord.
L'Arme de paix, lauréat dans la catégorie musique urbaine de l'année.
C'est voir la mer à 20 ans, 19 étés de galère.
Retrouvez Oxmo Puccino dans le programme musical de France Inter.
France Inter. La différence.
15h04 sur Inter, reste avec nous. C'est l'heure de Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, je viens réagir à la possibilité offerte par M. Châtel d'embaucher des instits retraités ou des étudiants pour remplacer des enseignants absents. Je suis une jeune retraitée depuis 2 ans, avec 20 ans d'expérience de remplacement à mon actif, les 20 dernières années d'activité. Monsieur Châtel oublie de dire que le gouvernement auquel il appartient est en train d'essayer de colmater comme il peut les brèches qu'ils ont eux-mêmes ouvertes en supprimant les postes, en diminuant de 43% en septembre 2007 les indemnités de déplacement des remplaçants. En outre, le travail du remplaçant est très spécifique. Il demande une bonne maîtrise de tous les niveaux de l'école, de la maternelle au CM2. Les jeunes ne peuvent pas faire ce travail, assumer cette responsabilité. Monsieur Châtel annonce 92% de remplacements effectués. Des remplaçants utilisés à 53%, c'est faux. En 20 ans de remplacement, j'ai toujours travaillé à temps plein, mes collègues aussi, et c'était avant la suppression des postes. Voilà. C'était Sylvette, en colère. J'habite Bordeaux. Merci Daniel, continue.
Nous les enseignants du lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Donc nous sommes actuellement mobilisés contre la perte énorme des moyens horaires alloués à l'établissement pour offrir une formation digne de ce nom à nos élèves, à nos jeunes. Nous avons déjà perdu 100 heures à la rentrée 2008-2009 et nous perdons encore cette année une centaine d'heures avec les postes qui vont avec. Conséquence, la fermeture de sections comme celle d'un CAP de conducteur d'autocar, quasiment unique en France dans le cadre de l'éducation nationale. Les bacs pro qui sont formés maintenant en 3 ans au lieu de 4 ans. La réduction du temps hebdomadaire de formation, par exemple 8 heures de pratique en atelier au lieu de 12 auparavant. Bon, perte de 10 postes d'enseignants en 2 ans sur notre seul établissement. Également, l'augmentation des effectifs avec le passage à 30 élèves par classe, alors qu'il s'agit d'un public en difficulté scolaire et sociale qui nécessite des conditions de travail adaptées. Paradoxalement, les instructions officielles nous demandent de pratiquer l'individualisation en fonction du niveau de chaque élève, quasiment irréaliste, équation impossible à résoudre. Pour reprendre l'excellent article publié dans Libération du 15 février par nos collègues de Bobigny, non, les profs ne grognent pas, voilà, ils s'inquiètent, ils compatissent, ils espèrent, ils s'insurgent, ils ont peur et surtout ils vous alertent, vous les parents, vous les jeunes, vous voilà, les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Cette alerte est lancée aujourd'hui par le collectif d'enseignants du lycée Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse qui maintient son action pour une durée indéterminée. Voilà, merci pour votre attention.
Bonjour les MG, Arnaud de Torcy. Je vous appelle pour vous signaler le premier repère à Torcy au bar de l'Esplanade le vendredi 12 mars de 19 à 21h. Venez nombreux, j'espère, et on pourra éventuellement discuter de tous les sujets chauds du moment et d'autres choses, bien entendu, et peut-être s'organiser. Voilà, à vendredi.
Nous, les professionnels de la crèche Halte Garderie de Belle-Île-en-Mer, isolés mais concernés, nous soutenons le mouvement national de grève « Pas de bébé à la consigne ». Ce jeudi 11 mars, l'établissement sera fermé car nous nous mobilisons contre les modifications du décret Petite Enfance qui menace le respect et le bien-être du jeune enfant et des professionnels qui les entourent. Pour soutenir ce mouvement, vous pouvez, si vous voulez, aller sur le site et signer la pétition. Le site, c'est www.pasdebebealaconsigne.com.
Bonjour là-bas si j'y suis et bravo à France Inter pour la journée consacrée aux camarades de Saint-Laurent. Les chaumistes et autres petits peuples de la France d'en bas seront contents de leur service public. Bon, heureusement, j'ai plein de choses à faire à l'extérieur. Je reviendrai pour 15 heures. Au fait, hier soir sur France Inter, j'ai appris que Saint-Laurent avait échappé à la guerre d'Algérie parce que rendu à la vie civile pour allergie aux ordres reçus. On est nombreux à regretter de ne pas avoir invoqué ce genre d'argument. Et en particulier, tous ceux qui ne sont jamais revenus d'Algérie. Allez, salut, c'était Gilles de 7.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour les ANG, je m'appelle Margot et je suis étudiante à Metz. En fait, aujourd'hui, je voulais parler d'une étudiante guinéenne qui est étudiante en troisième année. Ça fait 7 ans qu'elle est en France, elle a eu un doc de maths. Aujourd'hui, elle est en L3 économie et la préfecture ne la laisse pas finir son année puisqu'elle a reçu une obligation de quitter le territoire français au mois de novembre. Elle a fait tous les recours possibles et imaginables avec l'aide de l'UNEF, syndicat étudiant. Et ben, cet après-midi, on a, grâce à une mobilisation, on avait réussi à ce qu'elle sorte de centre de rétention. Mais aujourd'hui, l'hôtel de police lui a notifié qu'il fallait qu'elle prépare ses affaires pour partir demain à 10h30 à Roissy, direction la Guinée. Donc aujourd'hui, monsieur le préfet de Moselle, l'ensemble des étudiants de l'université de Metz, les personnalités politiques du PS, Front de Gauche, Modem, même les personnalités de l'UMP nous soutiennent. Et donc on ne peut obtenir qu'une chose de votre part, monsieur le préfet de Moselle, c'est le retrait de votre QTF pour Marie Bintou Camara, qui aujourd'hui n'appelle qu'à une chose, et ne sert qu'une chose, c'est finir son année universitaire en France et obtenir son diplôme. Voilà. On mobilise énormément et donc on espère que ce message passera sur l'antenne. Merci beaucoup.
Ouais, salut, moi, c'est François. Ça va mieux ta grippe ? Ouais, je t'appelle parce que là, je reviens de Languedoc-Roussillon et là-bas, c'est vachement plus simple. T'as le président de la région, Georges Frêche, qui est socialiste, mais pas investi par le Parti Socialiste, tu vois. Puis à côté, t'as Hélène Mandrou, qui est investie par le Parti Socialiste, mais elle n'est pas socialiste-socialiste, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et après, t'as le Front de Gauche, NPA, les Alternatifs et tout ça, qui eux sont socialistes, on va dire, mais au sens d'il y a longtemps. Eux, ils sont là pour rompre avec les socialistes. Hein. Mais pour le deuxième tour, ils s'allieront peut-être avec la socialiste, qui est investie par le Parti Socialiste, pour faire barrage à l'autre socialiste qui est pas investi par le Parti Socialiste. Bon, puis à moins bien sûr que Région Écologie arrive en deuxième position ou que le Front National se maintienne pour une quadrangulaire. Enfin, tu vois, c'est quand même vachement plus simple là-bas, non ? Au fait, tu peux me mettre pour ce soir un bout de tartiflette dans un tupperware ? Je te remercie, bon. Ciao.
Alors voilà, on est tombé sur ce message de François Ruffin à sa mère. Pourquoi on le diffuse ? Parce qu'après tout, c'est sa vie privée. Eh bien, on voit que les sondages indiquent pas mal d'abstention en perspective, un risque d'abstention massif en perspective pour ces élections régionales. Et ça nous pose beaucoup de soucis à la base que j'y suis. Et on a donc décidé de faire des efforts pour que les Français et les Français aille voter, bien évidemment. Mais pour ça, il faut leur donner le goût de la chose politique et politiser les Françaises et les Français. Et comment on fait pour politiser les Françaises et les Français ? Ben, on commence par les proches. Voilà, on commence, faut balayer devant sa porte, comme on dit. Alors voilà pourquoi François Ruffin a eu envie d'expliquer la politique à sa maman. Alors comme vous connaissez François Ruffin, c'est un brave garçon, mais il a l'air d'être un petit peu orienté politiquement à gauche, j'ai l'impression, en tous les cas depuis que je le connais et qu'on travaille ensemble. Donc il a essayé d'expliquer la gauche à sa mère, la gauche de gauche à sa mère. Et ça, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Et pour ça, il est allé à Montpellier, il est allé dans le Languedoc-Roussillon, où là, ça lui a semblé plus simple. Parce qu'effectivement, il y a une unité qui s'est réalisée dans cet endroit, et ça lui a semblé plus simple, pour faire comprendre à sa mère, d'aller là-bas et essayer de... Mais c'est quand même pas très facile non plus. Donc c'est ça, c'est cette quête et cette explication à laquelle nous allons assister d'ici à 16h dans la basse, j'y suis. Auparavant, encore quelques messages. Ah non, pas quelques messages, encore un seul message parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. C'est un long message de 5 minutes 30, mais qui, à mon avis, vaut la peine que vous tendiez l'oreille.
Des prêtres qui ont eu tort de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Cette phrase, Daniel, elle est sortie de ta bouche au cours de l'émission de ce lundi 8 mars, consacré à Mgr Oscar Romero. Tu l'as utilisé pour, en quelque sorte, exprimer les raisons par lesquelles un très violent pouvoir de droite, voire d'extrême droite, a justifié l'assassinat de Mgr Romero le 25 mars 1980 et de sept jésuites le 16 novembre 1989. Ce qui est amusant, c'est que cette phrase, elle aurait pu parfaitement être proférée par les défenseurs de la laïcité, pour justifier la séparation de l'Église et de l'État. Après tout, c'est vrai, les prêtres, ils n'ont qu'à se mêler de ce qui les regarde, qu'ils s'occupent de la religion, mais qu'ils laissent les affaires publiques et républicaines tranquilles. C'est vrai, sauf que ça ne colle pas toujours. Et moi, j'aime les vérités qui sortent du langage à son insu. Ça n'avait qu'à pas se mêler de ce qui ne les regardait pas, c'est une formule par laquelle on raille souvent le pouvoir chaque fois qu'il élimine les gens qui le dérangent, ceux qui laissent traîner leurs cheveux sur leur soupe selon l'image de Nougaro. Comme quoi, le problème n'est pas qu'il ne faut pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, mais c'est de savoir dans quelles circonstances cette recommandation est justifiée et dans quel cas elle ne l'est pas. Et on débouche sur le constat que la véritable question est celle du pouvoir. On voit très bien que lorsque c'est le pouvoir politique qui prescrit aux citoyens de ne pas se mêler de ce qui ne les regarde pas, c'est qu'à tous les coups les citoyens ont eu raison de le faire. Parce que justement ça les regarde. Parce que ça regarde tout le monde la conduite des affaires publiques. Parce que ça regarde tout le monde la politique. Et seuls les pouvoirs autoritaires ne sont pas de cet avis. Ils voudraient faire leur cuisine sans que personne ne soulève les couvercles de leur marmite. De la même façon, ce droit de chacun de se mêler des affaires publiques, c'est l'idée qui est à la base de la laïcité. Qui l'inspire? La laïcité, ça veut dire, nous refusons qu'une minorité au pouvoir, une élite, dicte à la majorité, c'est-à-dire à la masse, au peuple, lui dicte ce qu'il doit faire, à quelles prescriptions il doit obéir, alors qu'il n'a même pas été consulté lors de l'élaboration de ce catéchisme, qu'il soit religieux ou civil. Vous comprenez ça, c'est la même idée. C'est parce que je considère que j'ai à me mêler de ce qui me regarde, même lorsque le pouvoir veut me l'interdire, que je considère aussi que le pouvoir n'a pas à se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et il se mêle de ce qui ne le regarde pas chaque fois qu'il prescrit sans consulter. Et ne parlons pas des consultations bidons auxquelles il nous a habitués, je veux dire, bien entendu, les élections. C'est pourquoi les partisans de la laïcité, qui la réduisent à l'opposition entre l'Église et l'État, sont des imbéciles. Ils confondent le principe de la laïcité avec une de ses occurrences, une des étapes historiques de la lutte du peuple, c'est-à-dire du citoyen ordinaire, en vue de son émancipation. Et cette imbécilité a malheureusement des conséquences tragiques pour l'émancipation du peuple, parce qu'elle le plonge dans la plus grande confusion. Car enfin, qui est le plus laïque entre Mgr Romero, partisan de la théologie de la libération, et le très laïque pouvoir en place, que ce soit au Salvador ou en France aussi. Et je pense à tous ces imposteurs qui, de nos jours en France, rêvent de pénaliser le port du voile islamique au nom d'une laïcité qui refuse, bien entendu, de mélanger religion et politique, surtout lorsque la religion se range du côté du peuple. Parce que je sache, tous ces laïcs indignés par la candidature d'une femme voilée sur une liste du NPA lors des élections régionales à venir, ne sont pas choqués que l'Allemagne soit gouvernée par Angela Merkel, issue du CDU, entendez, Christliche Demokratische Union, branche allemande de la démocratie chrétienne, mouvement politique dont était issu en France quelqu'un comme Robert Schuman, que l'on ne cesse de glorifier comme l'un des pères de l'Europe. De même qu'ils ne sont pas davantage choqués par le fait que le président des États-Unis prête serment sur la Bible. De même qu'ils se sont tous, ou presque, bien réjouis de l'influence du pape Jean-Paul II, qui, à ce que je sache, était pourtant une éminence religieuse, dans l'effondrement du bloc communiste. Et tu sais pourquoi, Daniel, ils ne sont pas choqués? Ben parce qu'ils ne sont pas du tout laïcs au sens réel de la laïcité, c'est-à-dire principe et condition de l'émancipation du peuple. Ils utilisent le langage de la laïcité, mais n'en ont pas l'esprit. Eux, ce qui les intéresse, c'est la pérennisation de la sujétion du peuple au pouvoir des oligarques. Et ce pouvoir a pris historiquement diverses apparences. L'Église, la monarchie. La Révolution a renversé la monarchie. L'Église a perdu de son pouvoir de coercition. Mais l'on n'a pas changé la marche du monde. L'oligarchie s'appelle désormais démocratie libérale. Et les démocrates libéraux n'aiment pas l'Amérique latine lorsqu'elle n'est pas sous la botte des dictateurs. Bon, ils vont s'y prendre autrement. Et cet imbécile de Lula s'imagine que le Brésil est sorti d'affaire parce qu'il va organiser les Jeux Olympiques. Eh bien, moi, je vous le dis, je considère que la théologie de la libération, quoique théologique et pourtant condamnée par Jean-Paul II, est beaucoup plus laïque que les démocraties libérales.
Donc, place de la Comédie à Montpellier. On grimpe au 4e étage pour aller au local à gauche maintenant. J'ai vachement de mal à expliquer à ma mère les nuances politiques dans la Somme entre Maxime Grometz qui part tout seul, le MUP de Robert Hue qui s'allie dès le premier tour avec les socialistes, ensuite une fraction du PC qui part aussi avec le parti de gauche, puis le NPA qui part tout seul. J'avais vachement de mal à expliquer toutes les nuances à ma mère. Donc en langue de Croustillon, c'était plus simple parce que ils y allaient tous ensemble. Alors moi, je viens de Picardie. J'avais vachement de mal à expliquer à ma mère.
T'es Picard, toi ?
Alors comment ça se fait que là, il y a eu une unité entre les gauchistes et les staliniens ?
Parce que les staliniens ne sont plus staliniens et les gauchistes, disons qu'ils sont moins gauchistes.
Alors comment ça se fait que...
Il y a beaucoup de gens ici qui se revendiquent plus ou moins du marxisme ou d'idées marxisantes. Nous, on y croit encore, nous, on défend la révolution, c'est
moi
ça
aussi,
le marxisme.
Il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, ça fait, moi, en tout cas, je suis unitaire, bêtement unitaire.
On a été longtemps opposés aux gauchistes, aux trotskistes, un peu.
C'est péjoratif.
Mais lui, c'est un stalinien. Lui, c'est un stalinien. Bon, la Somme, en Picardie, on respecte une certaine tradition, nous.
T'es Picard, toi ? Pour les copains du NPA, je suis un stalinien. Pour les copains communistes, je suis un traître. L'important, c'est de garder la fraternité.
Entre traîtres, gauchistes et staliniens, conserver un peu de fraternité dans tout ça.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, gauchiste, traître, stalinien. La gauche de gauche expliquée à sa mère par François Ruffin.
Bonjour. On est sur l'immeuble qui surbombe la place de la Comédie.
Place de l'œuf.
À Montpellier.
Ouais.
Il y a l'Opéra National juste en face. Et puis là, il y a un spectacle qui se déroule en bas. Il y a un panneau qu'on aperçoit là, bien qu'on soit au 4e étage, on aperçoit Casse-toi, pauvre con.
Ouais, c'est l'opéra populaire hein, du parti de gauche qui met en dérision la politique de Sarkozy.
Et ici, c'est le local de quoi alors ?
Ça, c'est le local de campagne. Front de gauche NPA. Et bon, là, ce soir, il y a le meeting et donc là, on se prépare à faire une distribution de tracts.
Alors, moi, je viens de Picardie.
Ouais.
J'avais vachement de mal à expliquer à ma mère toutes les divisions de la gauche de gauche. Entre eux, bah, y a le PC, une partie du PC qui part directement avec le PS, les gens du MUP de Robert Hue. Y a la fraction Grometz qui part toute seule. Il y a le front de gauche avec une partie du PC et le parti de gauche. Et puis il y a le NPA. Pour commencer à faire mon travail de conviction dans ce labyrinthe de sigles et tout ça, c'était quand même compliqué, quoi. Donc je me suis dit, je vais venir en langue de Croustillon.
Bah ouais, là, ici, c'est plus simple. On a été suffisamment intelligents pour s'entendre sur une base. Et du coup, bah, pour que les gens comprennent facilement, on s'est mis ensemble. Donc du coup, c'est plus simple.
Comment ça se fait que vous réussissez ? Normalement, c'est la Picardie qui est constamment à l'avant-garde. Et comment ça se fait que pour une fois, c'est pas la Picardie, mais c'est le Languedoc de Croustillon qui...
Et nous, on a un contexte un petit peu local, comme l'a montré les frasques il n'y a pas longtemps de Georges Frêche. Donc du coup, on avait un petit peu cet avantage qui permettait de poser le débat un peu plus sereinement.
C'est-à-dire que finalement... Rien n'est plus rassembleur qu'un bon... Qu'un bon adversaire en commun, quoi.
Ouais, disons que ça permet de clarifier la situation politique.
Et vous pensez que ça serait possible de cloner Georges Frêche et d'en envoyer des clones un petit peu partout en France pour que ça crée une unité dans la gauche de gauche ?
Je sais pas si c'est vraiment souhaitable, en fait. Je souhaite pas à tout le monde, en fait, d'avoir un Georges Frêche dans sa région. Non, je sais pas. Le truc qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir des discussions à la base. Nous, la discussion, elle s'est faite au niveau régional. Après, pour les autres régions, bah, peut-être que ça sera un exemple avec le Limousin qui pourra faire que ce soit moins compliqué à expliquer à votre mère plus tard les partis de gauche.
Ouais, parce que même à la présidentielle, je veux dire, on était déjà déçus. Mmh. Aux européennes, on était encore déçus. Mmh. Bon, mais là, pour les régionales, à part en Languedoc-Roussillon, dans le Limousin et dans le Val-de-Loire, on est quand même encore déçus.
Bah ouais, c'est pas encore assez mûr. Visiblement, Sarkozy fera pas assez fort pour qu'on on pense que l'union, elle soit importante. Il paraît qu'il y en a, il faut laisser le temps au temps, il paraît.
Ça va, on attend. Nous, on est patients quand même.
Ouais. Quoi, vous voulez que ça aille plus vite ?
L'histoire va jamais assez vite pour les militants, non ?
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais.
Ouais. Bon, on va aller voir le spectacle en bas maintenant.
Ouais, ça marche.
Le volet de l'Empire états-unien, Sarkozy la carpette.
Et voilà, il a fait tout ça pour les beaux yeux de sa mère. Il a quitté Amiens, il est descendu jusqu'à Montpellier pour expliquer à sa mère comment fonctionne la gauche de gauche. C'est quand même bien, non ? Voilà un brave garçon. Voilà un brave garçon qui en a un peu marre de ce qu'on appelait autrefois le terrorisme intergroupusculaire. Le terrorisme intergroupusculaire, c'est une expression dont je me souviens un peu dans les années qui suivaient 68, ce terrorisme intergroupusculaire fait de divisions, de sous-fractions, de subtilité tactique, de finesse dialectique et de nuances stratégiques illisibles, incompréhensibles pour le commun des mortels, même si ces divisions, bien souvent, ont une histoire longue qui s'inscrit dans l'histoire des luttes politiques, l'histoire des idées, l'histoire tout court d'un pays comme le nôtre, mais qui souvent sont infléchis et révisés, c'est le cas de le dire, par tout un tas de mesquineries, de calculs classés, évidemment, d'hypocrisie, d'ego, d'ambition personnelle, qui viennent compliquer un peu tout ça et qui, très souvent, rendent l'activité politique, l'engagement politique assez désagréable et assez répulsif, bien évidemment. Encore que, bien sûr, on rencontre là le plus souvent des gens pleins de générosité, d'abnégation et surtout qui ont un espoir, qui ont une espérance, qui ont un horizon encore. Et ça, c'est quand même le plus important. Alors, on va soulever cette marmite pleine de complexité, de crabes, de contradictions, et on va assister à François Ruffin comprenant et faisant comprendre à sa maman comment fonctionne la gauche de gauche. Pourquoi ? Parce que c'est les régionales et que ce jour-là, ce 29 janvier dernier, au parc des expositions de Montpellier, eh bien, se tenait ce meeting d'unité. C'est assez exceptionnel, c'est assez rare pour que nous soyons ensemble à ce meeting jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis, la gauche de gauche, expliquée à sa mère par François Ruffin.
Fraternité.
J'entends la révolte qui gronde
au cœur de toute l'humanité.
Pour que la terre soit féconde
à tout ce qu'elle a enfanté,
il est nécessaire que l'on fonde
une nouvelle société.
Tous ceux qui veulent changer.
Yeah.
changeons le monde ensemble.
Jaco, tu es devant l'imprimerie ou pas? Ouais, dépêche-toi, ça répond pas, donc tu fais le siège, hein. T'es où? T'es à quel niveau, là? J'ai un casino, mais qu'est-ce que tu fous, j'ai un casino? Prends l'autoroute. Enfin, débrouille-toi, mais... Si, ils t'attendront pas longtemps, hein. Ciao.
Et là, on va grimper sur la super moto Breto, BMW. C'est combien de centimètres cubes, ça? Moi, je suis nul en moto.
C'est une moto de... C'est une 1150. Et tu vas mettre un casque. C'est une petite tête. Ça devrait aller, c'est le casque de ma femme.
Et donc là, on est parti en moto. On traverse la place de la Comédie à Montpellier. On est parti au parc des expositions, où doit se dérouler un meeting unitaire de la gauche de gauche avec le NPA, le parti de gauche et le parti communiste. Tous les trois ensemble pour la campagne des régionales. Donc là, on arrive au parc des expositions.
Oui.
À Montpellier. Il y a de la musique à l'intérieur, apparemment il y a de quoi bouffer aussi.
Normalement il y a de quoi bouffer, oui.
Alors comment ça se fait que dans la Somme, en Picardie, on respecte une certaine tradition, nous, puisqu'on a, on a quatre listes de gauche. À la gauche de la gauche, on a quatre listes.
T'es Picard, toi ?
Ouais. On a Grometz.
Ouais.
On a le PC avec le PS, qui veut partir directement avec le PS.
Ouais.
On a du PC qui part avec le parti de gauche. On a le NPA, on en aura sans doute lutte ouvrière. Donc, bon, comprendre les différences tactiques, stratégiques, dialectiques entre tout ça, les frontières, c'est un peu compliqué à expliquer à ma mère.
Bah, je comprends, oui.
Mais au moins, il y a une tradition qui est respectée.
Ouais, bah, c'est ce qui va pas. Il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, ça fait, moi, en tout cas, je suis unitaire. Bêtement unitaire.
C'est à toi, ça.
Tiens, en voilà une autre. De bêtement unitaire.
T'as pris un coup dessus.
Mais tout le monde dit qu'il est unitaire et puis finalement ils y vont tous tout seuls. Là, ce qui est bizarre, c'est que vous soyez unitaire mais tous dans le même truc, parce que normalement on est tous unitaires mais chacun dans son coin.
On a réussi à le faire.
Mais comment ça se fait?
D'aller rond.
On s'est fait chier, hein. C'est dur, hein. Parce que tout le monde défend sa boutique, hein. Tous ils défendent leur boutique. Et je comprends, puisque c'est un appareil, il faut l'appareil, il faut se bouger. Voilà, on a l'impression que c'est, y a que ça qui compte et tout.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a été des tractations dans les arrière-boutiques, toute une cuisine pour qui va en tête de liste, qui va numéro 2. Le moindre mot sur un tract fait l'objet de 4 heures de débat.
Ça, c'est au début. Nous, on est la fédération. La fédération pour une alternative sociale et écologique. Donc, il y a des gens de partout qui viennent de tous les... Il y a des communistes. Moi, je suis membre du Parti communiste. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont au PG. Il y en a qui sont au NPA. Il y en a qui sont au Vert. Et tous ces gens-là, ben, ils veulent... voilà, ils se battent pour l'Union.
Donc, vous êtes au PC. Vous allez travailler avec les gauchistes du NPA et compagnie.
Oui, mais ça fait déjà longtemps.
On appelle pas ça gauchiste. C'est péjoratif.
Lui, c'est un stalinien. Lui, c'est un stalinien.
Pour les copains du NPA, je suis un stalinien. Pour les copains communistes, je suis un traître. L'important, c'est de garder la fraternité. C'est le plus beau, c'est le plus important.
Okay. Entre traîtres, gauchistes et staliniens, conserver un peu de fraternité dans tout ça.
Ah ben oui, parce que si
oui,
tu commences...
On arrive à réaliser aussi des choses.
En gros, la règle dans les négociations, c'était celui qui dit une méchanceté, il paye un coup à boire à tout le monde. C'était assez drôle, parce que quand il y en avait un qui disait un truc un peu... qui passait le trait, quoi... Hop, il était condamné à ça.
Et vous l'avez payé souvent, votre coup ?
Non, parce que nous, on est là justement pour qu'il n'y en ait pas de débordement. Enfin, on essaye en tout cas qu'il n'y en ait pas.
C'est-à-dire, vous êtes la cheville ouvrière, vous êtes le joint, vous faites le joint entre le NPA, le PC, le parti de gauche. C'est la fédération qui fait le joint, quoi.
Enfin, ici, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est au moment où ça ne marchait plus, au moment où c'était fini, on pensait tout le monde que c'était cuit. Ben, on est allé chercher les uns et les autres. On a obtenu une réunion de plus pour revenir discuter, et puis...
Mais normalement, il devait y avoir Olivier Besancenot aussi ce soir. Là, j'ai vu, moi je venais pour voir Marie-Georges Buffet, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot, tous les trois, côte à côte, les trois tenants du nom, finalement.
Ouais, on y a cru.
Il y a eu un désistement d'avant-dernière minute, d'avant-dernier jour.
Bon, on regrette. Hein. Les copains du NPA et d'autres sont déçus. Mais...
Donc c'est toujours pas sur un lit de rose quand même.
Et ici, ça va. Là, tu me parles d'Olivier, il n'est pas d'ici. Il est dirigeant. Donc en fait, là, on est en train... C'est vrai que c'est un exemple, cette histoire, ici, la Languedoc-Roussillon, mais malheureusement, c'est clair, au niveau national, il n'y a pas la même situation. Hein.
Vous espérez faire tache d'huile après, ou quoi?
Ah ben évidemment, hein, les révolutionnaires, hein, ils veulent faire tache d'huile. Hein. C'est sûr. Enfin, moi, en tout cas. Bien sûr qu'il faut...
Jusqu'en Picardie, alors?
Ouais, ils s'y mettront, les Picards, de ces jours.
Voilà, la passion politique n'est pas morte, hein. Quand on entend ce genre de langage, passion politique avec des références de plus en plus ténues, de plus en plus difficiles à comprendre. J'imagine un jeune homme, une jeune femme qui s'intéresse à la politique, comment piger ces clivages, ceux qui ont de la bouteille, ceux qui ont quelques années de quelques heures de vol, connaissent ces histoires anciennes, ces clivages entre tel parti à l'intérieur d'un parti, des clivages différents entre le parti communiste français, les mouvements trotskistes, les socialistes de gauche, socialistes libéraux, etc. Toutes ces subtilités qui n'en sont pas, puisque, encore une fois, ça se réfère à des histoires anciennes. On remonte à la Résistance, on remonte à la guerre d'Espagne, on remonte à la Révolution d'Octobre, on remonte à des difficultés de s'entendre entre Guède et Jaurès, etc. C'est une longue histoire qui se prolonge ici et qui connaît une nouvelle étape et une nouvelle difficulté, toujours la même, à s'unir pour agir. Alors il y a quelque chose d'incompréhensible, on le comprend tout à fait. Souvenez-vous, quand on essayait de vous faire comprendre le Parti communiste en Inde, dans le Kerala, entre le Parti communiste de l'Inde, le Parti communiste marxiste, le Parti communiste marxiste-léniniste, le Parti marxiste, communiste marxiste-léniniste, maoïste de l'Inde, etc. On se donnait un mal fou à essayer de vous faire comprendre. Je suis sûr qu'il y a très peu d'auditeurs qui ont pigé, parce que ça ne correspond pas, tous ces termes-là ne correspondent pas au sens qu'on a pu donner à ces sigles-là dans notre pays. Mais là, tout s'arrange à ce jour-là, exceptionnellement, ce 29 janvier au Parc des Expositions, puisque c'est la grande unité, même si c'est pas forcément facile pour les anciens.
Alors, monsieur Dumas, vous portez une écharpe rouge.
Oui, c'est la couleur. C'est la couleur. Dans ma famille, il y avait ma grand-mère, une vieille révolutionnaire, qui disait « Georges, le sang des révolutionnaires ne saurait mentir, il est rouge. » Et j'ai toujours mis des écharpes rouges. Voilà, c'est le départ, si vous voulez, de ma vocation révolutionnaire, parce que vraiment, c'est mon idéal.
Écharpe rouge, cheveux blancs.
Oui.
Avec plus beaucoup de cheveux.
J'ai adhéré au Parti communiste en 1944, dans la clandestinité, dans le maquis FTP, et j'y suis resté jusqu'à l'année dernière. Je n'ai pas repris ma garde parce que j'avais quelques désaccords avec la position de Marie-Georges Buffet, mais enfin, je suis quand même communiste.
Donc depuis 1944, comment ça se passait pour prendre sa carte au Parti communiste en 1944?
On n'avait pas de carte. C'était d'ailleurs les maquis faits par le FTP, c'était un marquis, si vous voulez, du Front National.
Vous avez connu le Parti communiste de Maurice Thorèze?
Oui, bien sûr.
De Jacques Duclos?
Jacques Duclos, bien sûr.
De Georges Marchais?
Georges Marchais. Vous en avez oublié, un Val de Crochet qui était aussi...
Quand même, bon, on se dit, vous étiez des communistes, qu'est-ce que vous venez faire maintenant avec des gauchistes dans une réunion comme là ce soir?
Ah ben, on a été longtemps opposés aux gauchistes, aux trotskistes, comme on peut dire. Nous étions marqués par le stalinisme, le trotskisme, c'était l'ennemi rébellitoire.
Vous en croisiez dans la rue, vous les insultiez, vous vous mettiez sur la tête ou...
Oui, on se battait dans les manifestations, ça nous est arrivé. Effectivement, ça nous est arrivé.
Stalinien contre gauchiste?
À Montpellier, oui. Pour la paix au Vietnam, par exemple, pour la paix en Algérie, pour... Mais c'était un temps. Et dans le fond, nous avions quand même le même but, c'est-à-dire renverser le capitalisme.
Mais alors bon, là vous dites, au moment de la paix au Vietnam, 68, tout ça, vous vous mettez sur la tête
avec
les gauchistes. Oui. Eux, ils vous traitent de staliniens. À partir de quel moment on se rabiboche alors?
C'est pas très vieux. Moi, par exemple, au sein du parti, j'ai été réformateur puis refondateur avec cette idée. Il faut vraiment s'unir avec l'extrême-gauche. Voilà. On ne peut pas ne pas s'unir avec l'extrême-gauche. Et effectivement, à Montpellier, ça s'est concrétisé par maintenant... Là.
Mais alors vous êtes pour ça? Vous êtes pour cette unité-là depuis longtemps?
Ah oui, oui, depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis Marché. Je me suis fait traiter un peu dans le parti, des fois dans Archaud.
Parce qu'il y a plein de gens qui ont été virés du parti parce qu'ils disaient qu'il fallait que le parti s'ouvre, qu'il fallait qu'on aille...
C'est vrai. Moi, je n'ai pas été viré parce que dans le département de l'Hérault, j'avais un passé de résistant, tout ça. C'était difficile de me virer. Parce qu'ils m'auraient viré, ça, c'est sûr, à une certaine époque. Hein.
Et pourquoi vous êtes parti? Alors, vous avez accepté Thorez?
Non, parce que j'ai pas. Non, j'ai quitté parce que, par exemple, pour la présidentielle, j'ai cru vraiment au moment qu'on y était arrivé.
Arrivé à quoi?
À l'union. À une union solide. Puis alors, il est arrivé le problème de qui va représenter ça. Et là, le parti a été inflexible. Marie-Georges Buffet, c'était pas possible. Ça. C'était pas admissible par les autres. Ça ne pouvait pas être le parti qui avait la tête de liste, le dirigeant du parti. C'était pas possible. C'était une inféodation au Parti communiste. Ils l'ont pas compris. Et résultat, on a fait ce qu'on a fait.
1,38%. Voilà. Donc là, en 2007, vous avez dit, c'est de la faute du PC, c'est de la faute de Marie-Georges Buffet.
C'est de la faute de la direction. Voilà.
Du PC, et si jamais il n'y a pas eu une candidature unique.
Pas seulement. Nous, Anselon, avait déjà fait un travail, évidemment, de division.
Et alors, comment ça se fait que, là, il y a eu une unité entre les gauchistes et les staliniens, ici?
Parce que les staliniens ne sont plus staliniens, et les gauchistes, sont moins... Disons qu'ils sont moins gauchistes.
Et donc là, vous pensez que ça peut faire tache d'huile ailleurs? Que ça peut donner des idées?
Oui, moi, je le pense, vraiment. Bonjour. Bonjour. Salut. C'était Marie-Georges Buffet, t'es pas reconnu.
Elle a changé de coiffure, je trouve.
Ah oui, peut-être.
C'est moins frisé, il y a des couleurs dedans en plus. Il y a des tresses un peu.
Bon, là, c'est les autorités là, qui rentrent, tu vois.
Là, vous regardez les chaises qui sont en train de se remplir pour la conférence de presse.
Salut, Mermet.
Bonjour.
Comment vas-tu? Ça vous fait plaisir?
Ouais.
Le NPA.
Ça vous fait plaisir que le NPA soit là?
Qu'il y soit.
Salut. Ça va, toi?
Bonsoir. Voilà. Salut!
Et donc cette union de la gauche de gauche, vous l'avez attendue depuis 20 ans, quoi.
Eh oui, je vois qu'ici, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir.
À bas les logiques de toute commission, à bas les logiques électorales, vive la révolution. Pour que ça change, pour que ça pète, camarades, n'hésitez pas.
On est dans un gouvernement de la bourgeoisie. Mais à chaque fois que tu peux quand même gratter quelque chose en faveur des travailleurs, qu'est-ce que tu fais? Tu leur dis au nom de la révolution, non, vous attendrez?
Pour un pseudo acquis qu'on risque de perdre dans quelques années, je trahirai pas la cause. J'organiserai les travailleurs sur l'idée qu'il faut une révolution, qu'il faut un régime socialiste, une planification démocratique. Non, mais la transition pour aller à une société communiste en case en état, c'est le socialisme, c'est la dictature du prolétariat. C'est dans ce sens-là que je le dis. Après, c'est un régime communiste.
Mais c'est le socialisme... C'est pas en coupant des têtes, comme tu viens de le dire.
C'est pas en quoi?
C'est pas en coupant des têtes, comme tu viens de le dire.
Eh ben, on en coupera des têtes. Moi, je suis révolutionnaire, je vous dis, je fusillerai des gens. Et j'assume.
Oh!
Quel bel enthousiasme. Bien sûr que je fusillerai.
Là, vous distribuez un tract de l'arme révolutionnaire marxiste.
Exactement. C'est une force marxiste-léniniste. Marxiste révolutionnaire, c'est-à-dire on défend les perspectives de la révolution, du communisme, etc. C'est-à-dire on défend l'idée que...
Et là, vous venez dire quoi ce soir?
Il y a beaucoup de gens ici qui se revendiquent du plus ou moins du marxisme ou d'idées marxisantes. Nous, on y croit encore, nous, on défend la révolution. C'est
moi aussi,
ça le marxisme.
Moi aussi, je suis marxiste.
C'est ça le marxisme, c'est pas participer à un gouvernement ou dire on va être élu pour... En promettant quelques petites améliorations de type keynésienne.
Vous dites que ceux qui rentrent là, c'est des traîtres au marxisme?
Pas les gens, mais les dirigeants. Oui. Pas les gens.
Et vous en pensez quoi?
Il y a beaucoup de gens à la base du PCF qui sont d'accord avec nous.
J'entends ce langage depuis 40 ans. Le problème, c'est que quand on prend un engagement comme ça révolutionnaire, le plus dur, c'est de durer. Alors lui, je voudrais le revoir dans 10 ans.
Voilà. Ça fait déjà 10 ans que je suis dans le bord, et dans 10 ans, je serai encore là.
Donne-moi ton adresse.
Ça fait... Non, je...
Vous demandez Elias, sur l'adresse mail, on peut rentrer en contact sans problème.
Ah oui. C'est la lutte finale, pour nous et demain, l'internationale sera le genre humain.
Voilà, alors vous avez compris, c'est le grand meeting unitaire au parc des expositions à Montpellier. Ça a enthousiasmé François Ruffin. Il a trouvé là la manière et la façon de faire comprendre la gauche de gauche à sa mère, qu'il doit être à l'écoute. J'en suis sûr, d'ailleurs, elle est à l'écoute. On lui demandera ce qu'elle a compris. Je suppose qu'elle est en train de prendre des notes. Et qu'elle, la pauvre, si elle s'y retrouve dans tout ça. Elle n'a qu'un mot à comprendre, c'est le mot unité. Ce jour-là, c'était l'unité dans la gauche de gauche. C'était une journée à marquer d'une pierre blanche et d'un drapeau rouge.
Bah alors là, on est devant le parc des expositions à Montpellier. Il y a un camarade qui porte le logo du Front de Gauche, Parti communiste, et de l'autre côté, un autre, c'est le NPA.
L'unité est un combat, ça n'a pas été facile, mais maintenant on est là, on y est arrivé, quoi.
Vous, Bernard, ça fait combien de temps que vous êtes au PC ?
Ben, moi, je suis au PC depuis l'âge de 17 ans où j'étais aux Jeunesses communistes, en 58. 58, justement, avec des événements sur la guerre d'Algérie, où nous avions arrêté les trains, etc., où j'ai fait 3 jours de tôle, où enfin, bon, c'était normal, hein. Et on dénonçait la guerre d'Algérie, etc., tout ce qui se passait. Et bien sûr, c'était une époque, une bataille.
Mais à cette époque-là, Gaël et ses copains trotskistes, à l'époque, c'était des gauchistes, c'était la lie de la société.
C'est vrai que, moi je me rappelle en 68, même on avait arrêté trois copains, on peut dire ça, oui, gauchistes qui foutaient le feu à des commerces, etc. Et ça discréditait un peu les grandes actions qu'on menait en 68. Il y avait une manif, une grande manif à Montpellier, et je me rappelle un groupe de, alors on peut dire gauchistes à ce moment-là, qui est d'une rue adjacente, ont traversé la manif à coups de barre et ont, massacré des copains. De mon père a eu 17 opérations suite à cette agression, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça, tout ça. Mais ça, c'est de l'histoire. Et bien, tout ça, il faut qu'on passe dessus. Hein. Comme nous aussi, on a cassé la gueule à certains aussi. Mais bon, point barre. Hein. Là, c'est fini, c'est terminé. Hein. On casse la gueule à la droite et au facho. Voilà.
Donc voilà. Là, c'est toute cette histoire-là que vous venez rabibocher aussi en rentrant au parc des expositions.
On se bagarrera plus physiquement.
Vous tapez sur l'épaule de... À la place de lui envoyer votre poing dans la figure, vous tapez sur l'épaule de Gaël.
De Gaël, parce que c'est un camarade de lutte.
Il faut dire qu'il est plus costaud que vous aussi. Hein.
Il est plus costaud, mais moi, je suis plus nerveux. Donc, c'est un camarade de lutte, et je pense que les luttes qu'on a menées syndicales ou politiques, on les mènera et on devra les mener avec nos camarades de l'extrême-gauche, y compris LO, si on veut que les choses avancent.
Alors depuis quand vous avez arrêté de les traiter de gauchistes ?
Ils sont toujours gauchistes, par rapport à nous, c'est gauchiste.
Mais vous avez arrêté de les traiter de gauchistes ?
Oui, c'est vrai.
Vous avez arrêté de leur dire « vous êtes la maladie infantile ».
Du communisme, ouais. tu connais, oui.
Parce que la recomposition de la gauche de gauche, là, ça traîne maintenant quand même depuis un paquet d'années. Bon, il y a eu le non au traité constitutionnel européen où là il y avait une unité. Bon, on était tous pour le même candidat, c'était le non, ça allait. En revanche, pour ce qui a été des présidentielles, ça a quand même complètement foiré. Les européennes, il y a eu une division aussi. Là, on voit, il y a un truc qui commence éventuellement en Languedoc-Roussillon. Et moi, dans ma Picardie, j'ai une liste Grometz, une liste NPA. Bon, on voit bien que la recomposition, elle prend du temps. Mais moi, je me dis, au fond, si on regarde l'histoire, ça prend du temps, mais finalement, 2007, c'est pas si loin. 2005, c'est pas si loin. Si on regarde l'histoire, combien de temps ça a pris à Jaurès et à Guède pour finir par se mettre d'accord et pour faire un parti socialiste unifié, quoi.
Je crois que tu l'as posé la question. C'est pas une discussion de direction qui règle le problème NPA, PC, Parti de gauche, etc. C'est parce qu'il y avait un besoin de la base, des militants de base, du peuple de base, dont l'unité est montée d'en bas. Ça s'est pas réglé en haut, c'est réglé en bas. Donc c'est les gens en bas, le peuple, les militants, qui sentent que c'est par là qu'on doit passer.
Ce que vous voulez dire, c'est que si on avait attendu que les grands ténors des partis, les directions des appareils, ils se mettent d'accord, il n'y aurait toujours pas de liste commune en Languedoc-Roussillon.
Oui. C'est les gens d'en bas. Lui, moi et tous, c'est un besoin qui part d'en bas.
I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, worker. I can love artist. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. La petite communiste. La petite communiste. La petite communiste. La petite communiste.
Alors là, la salle du parc des expositions est archi comble. À la tribune parle la représentante du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, tandis que sur l'estrade sont agités les drapeaux du NPA, du parti communiste et du parti gauche.
Ils doivent incarner la permanente, ce qui se passe au cœur de l'Assemblée régionale et ce qui se passe à l'extérieur du mouvement social.
Que 2 euros pour le jambon et les chips pour venir écouter Jean-Luc Mélenchon de Marie-Jean-Luc.
Il y a un instant, l'indignation la plus complète, moraliser le capitalisme. Quelle extraordinaire superstition leur fait croire que tandis que l'humanité a changé tant de fois son organisation, sa façon de produire et de distribuer, elle aurait atteint une espèce d'idéal absolu, indépassable, par l'imagination et par l'action collective, le capitalisme. Une économie de prédation où chacun est l'adversaire de l'autre. Non, le capitalisme sera dépassé par une autre société que nous sommes en train d'inventer chaque jour par notre labeur, notre intelligence et notre coopération. Et ça s'appelle le socialisme, qui est l'homme idéal destructible, dont bien même nous aurons bâti les
n'est pas mort, il est parti du fond de la salle et finalement il est remonté vers la tribune et s'est repris par la tribune, mais c'était pas prévu que ce soit le champ de la campagne. Apparemment c'est la basse qui a imposé l'international contre une gentille musique de jazz, quoi.
À 18h30 à Florent 5.
n'empêche que la maman de François Ruffin, qui est en train de lui préparer une tartiflette, eh ben, je suis sûr qu'elle a fredonné l'international, parce qu'elle est comme vous, amis modestes et géniaux, auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales, vous commencez à comprendre comment fonctionne la gauche de gauche, mais on n'a pas fini.
Attends, moi j'aurai ma petite fille sur les genoux de Jean Jaurès. À bientôt, à bientôt. J'aurais été heureux. Bon, alors, dites-moi.
Ah, mais justement, on parlait de Jaurès. Je me dis, en fait, tout ce qui se passe en ce moment-là, avec. Bon, depuis 2005, il y a eu la campagne du non. Ouais. 2007, il y a eu une tentative pour que la gauche de gauche finisse derrière une candidature. Ça a capoté.
La gauche est en ruine. Ce qu'on voit, c'est ce qui tient avec la peinture. C'est, l'énorme machine socialiste. Moi, j'ai participé à sa vie, à sa construction, mais je peux donc vous en parler en connaissance de cause. Elle est vide. C'est une coquille creuse, ça tient avec la peinture. Et ce sont des caciques. Le reste, c'est quoi? Le grand idéal de gauche, c'est fini. On arrête, on rentre à la maison et on pleure. Non, on construit, on reconstruit. Ça n'ira pas partout à la même vitesse, parce que vous me signalez la situation de la Picardie ou cette noire pagaille. Mais ici, quand même, ça va, quoi. Les choses. Vous croyez que ça sort d'où? C'est un long travail militant. Il n'y a absolument rien là-dedans qui est dû au miracle. C'est des hommes, des femmes qui sont acharnés d'une réunion à l'autre, essayer de se rassembler encore une fois, une deuxième, une troisième, une quatrième, puis à la fin, ça finit par passer, voilà. Vous savez, la politique, il y a des aspects qui sont misérables, misérables, mais personne n'en est exempt quand vous faites des listes. Même si vous êtes l'autre gauche, même si vous partez une élection, on sait d'avance qu'il n'y aura personne d'élu, mais les types se battent, mais comme des chiens. Ils vont vous faire des histoires à non plus finir, parce que celui qui est septième veut être cinquième. Enfin, c'est invraisemblable. Et des fois, les bras vous en tombent. Vous dites, mais écoutez, là où vous allez, là, vous rendez. Ça ne fait rien. Il faut recommencer. Il faut continuer.
Moi, ce qui se passe, ça me fait un peu penser à la période où le Parti radical, qui était le gros parti, la Troisième République, est en train de s'effondrer à la fin du 19e siècle. Il n'a plus de ligne idéologique. Bon, la République, elle est installée, donc ça ne peut plus être seulement la République. Et puis, à côté de ça, il y a les petites chapelles socialistes, mais qui sont encore plus nombreuses que les chapelles dans la gauche de gauche aujourd'hui, et qui mettent 10, 15 ans à se construire une unité de congrès en congrès, en s'engueulant, en se supportant pas, en se divisant, en créant une unité, puis le lendemain, l'unité est partie en vrille.
La comparaison, j'espère bien que ça ne durera pas 10 ou 15 ans, mais si ça durera le temps que ça durera, qu'est-ce que vous voulez? On remettra le métier sur l'ouvrage autant de fois qu'il le faudra. Mais en même temps, l'histoire, elle nous a instruits les uns et les autres. Est-ce qu'on peut faire autre chose que du capitalisme? Il y a plein de gens, moi j'appartiens à une génération où n'importe qui nous a répondu, bah oui. Hein, parce que d'abord, il y avait le monde de Yalta, alors il y en avait qui disaient, ça là-bas, c'est le communisme. Bon. Aujourd'hui, l'idée même qu'on puisse organiser une société autrement que comme elle est, c'est une idée qui peut paraître un peu étrange, bizarre.
Le PS d'aujourd'hui, c'est les radicaux de la Troisième République. Vous savez ce qu'on disait des radicaux de la Troisième République?
Oui, qu'ils étaient...
Rouges à l'extérieur, blancs à l'intérieur, et toujours près de la 7 over.
C'est un peu cruel, mais il y a quand même une comparaison qui est vraie, c'est que c'est le parti qui représente les classes moyennes supérieures. Et que ces classes moyennes supérieures, tant que tout allait bien pour elles et qu'elles avaient le vent dans les voiles, elles étaient pleines d'idéaux généraux et généreux. Qui très vite ont tourné non plus au socialisme mais à la compassion. Et maintenant, ce sont des catégories sociales qui se sentent menacées. Le corps social qui soutenait la ligne moyenne du socialisme en France, qui était progressivement, qui est passé du statut de la révolution socialiste dans les années 70 à l'économie mixte dans les années 80 à on fait ce qu'on peut si on peut. Ce bloc sociologique, il est brisé. Et ce qui est frappant, c'est de voir que dans le déclenchement des révolutions démocratiques en Amérique latine, le facteur déclenchant, c'est toujours le moment où, en plus de l'activité ouvrière et des pauvres, la classe moyenne, une partie de la classe moyenne se met en mouvement. En général, le déclencheur vient de là. Et dans ce pays, ce sera pareil.
Donc, vous comprenez que le grand soir approche, c'est une très bonne nouvelle. Voici en tout cas la conclusion de ce meeting.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Bon alors.
Alors quoi?
C'était pas mal, non? Non, on est très content, tout le monde est très content. C'est toujours comme ça, tu sais, les trucs unitaires. Après, quand ça a marché, tout le monde réalise que, nom de Dieu, ça a une force extraordinaire. Bon, ça continue, il y a toujours des aigris qui râlent après les uns et les autres. Tu vois, il y a ceux qui ne sont pas contents de Marie-Georges, il y a ceux qui ne sont pas contents du NPA, il y a ceux qui se disent, il y a toujours, c'est comme ça, c'est assez rigolo. Par contre,
L'Union, c'est absolument magnifique. Hein. 3500, dis donc. Quand je suis rentré à la salle, que je l'ai vu se remplir si lentement, eh bien, je me suis dit, on ne va pas y arriver. Quoi. Là, il y a des tas de gens qui ont fait des compromis, des petits bouts de compromis pour arriver à ça. Et puis voilà, il faut tous. Tout ça, c'est magnifique, et puis c'est tout. Hein.
Donc ça valait le coup de se décarcasser.
Ah oui, oui, ça vaut toujours le coup.
Donc on te retrouve dans 3 mois, là, on vient en Languedoc-Roussillon. T'es directeur de cabinet du président du conseil régional.
Ça, c'est pas possible. J'ai un métier et je le garde, je m'en régale. Donc voilà. Non, c'est une aventure. C'est une aventure. Je travaille dans la culture, dans l'art. Voilà. Travailler avec les artistes, c'est bien plus rigolo que de travailler avec les politiques, on va le dire comme ça. Même si on ne peut pas se passer de la bagarre politique. Hein. Voilà.
Et non, on ne peut pas se passer de la bagarre politique qui s'attend très bien. C'était un reportage de François Ruffin à l'attention de sa maman. Merci à Gaël et Bernard, merci à Thierry Angle, Georges Douminc, Jean-Luc Mélenchon. Sur le même sujet, un article dans le numéro de Fakir du mois de février 2010. Fakir, vous le savez, c'est le journal de François Ruffin. Et puis pour l'enregistrement en public de l'émission avec le monde diplomatique demain à 18h à la Java à Paris, eh bien c'est complet, vous avez été très nombreux à vous manifester et à retenir votre place pour cet enregistrement gratuit. Nous vous remercions et si tout se passe bien, on recommencera l'expérience le mois prochain. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. La technique aujourd'hui d'Ofar Guéride et Guillaume Roux. C'est Cognène Guyenne et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attends vos messages au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 11 mars au 10 avril Ciel, écrit et mis en scène par Wajid Mouawad aux Ateliers Berthier. Ciel, ou un huis clos multimédia oppressant. Une enquête palpitante menée par des acteurs engagés et éloquents. Retrouvez Ciel dans les émissions de France Inter.
À demain, 15h pour là-bas, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois. Salut.
Un peu plus d'un Français sur deux, 53% précisément, aurait décidé de façon certaine d'aller voter dimanche pour le premier tour des élections régionales. 71% des plus de 65 ans et seulement 28% des 18-24 ans prévoient de participer au scrutin. Et un tiers des employés contre 66% des cadres, selon un sondage IFOP pour la lettre de l'opinion. Sondage réalisé les 4 et 5 mars auprès d'un échantillon de 830 personnes. 47% d'abstention, ce serait 8 points de plus qu'en 2004. Après la mort la nuit dernière de 3 de ses marins, le pétrolier Arjonas s'est dérouté sur le port du Havre où il a accosté cet après-midi. Les 3 hommes auraient succombé à une intoxication alimentaire. Le reste de l'équipage est en bonne santé selon les médecins montés à bord. Le navire bat pavillon des îles Marshall. Il a été stoppé au Havre pour les raisons de l'enquête car à ce stade on ne connaît toujours pas l'origine de cette intoxication. À Lyon, un passant a été grièvement blessé par balle hier soir par 2 malfaiteurs qui pourraient bien appartenir aux gangs qui écument en ce moment les entreprises de fabrication de bijoux dans la région. Ils faisaient, semble-t-il, le guet à quelques mètres d'un atelier. Le gérant les a pris en chasse, mais ils ont ouvert le feu un peu au hasard dans leur fuite et touché donc au thorax un homme d'une trentaine d'années. Sa vie n'est pas en danger. Vétusté, brutalité, pauvreté, indignité. Dans son second rapport annuel, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, dresse un bilan toujours aussi sombre de la situation dans les prisons françaises. Il s'inquiète notamment des difficultés rencontrées par les détenus pour se réinsérer. À noter que seulement 15% des détenus ont la possibilité de travailler en étant derrière les barreaux. Un millier de sans-papiers ont défilé aujourd'hui dans les rues de Créteil, en banlieue parisienne, derrière une banderole demandant l'égalité des droits entre travailleurs français et travailleurs immigrés. Ils réclament leur régularisation et une simplification des démarches administratives. Plus de peur que de mal dans un collège de la périphérie de Strasbourg où les plafonds de 2 salles de classe se sont effondrés. C'était dans la nuit de lundi à mardi, sans faire de blessés donc. Mais les dégâts sont importants et l'enquête montre qu'il y a des malfaçons. L'actualité charité à l'étranger, l'Église catholique des Pays-Bas, au cœur d'un nouveau scandale. Des prêtres auraient commis des abus sexuels sur des enfants dans des pensionnats dans les années 50 à 70. Plusieurs centaines de plaintes ont été répertoriées et les évêques néerlandais annoncent l'ouverture d'une enquête indépendante. La neige perturbe le Paris-Nice. La troisième étape de l'épreuve cycliste a dû être raccourcie cet après-midi de 50 km. Les coureurs sont partis à la mi-journée de Saint-Yrieix-la-Perche au lieu de Saint-Junien. Ils roulent vers Aurillac, 155 km en tout.
Toute la journée sur France Inter.
Qui est Yves Mathieu Saint-Laurent ?
Yves Saint-Laurent, sous toutes les coutures.
J'ai toujours dit que j'avais des antennes, n'est-ce pas ? Et qu'il me suffisait d'ouvrir la fenêtre de ma chambre chaque matin pour capter l'air de Paris.
À partir de 17h, Jean-Paul Gaultier sera l'invité d'Yves Calvi dans Nonobstant.
Et à partir de 20h, dans l'humeur vagabonde de Kathleen Evin, Yves Saint-Laurent et la peinture, avec Alain Jaubert pour son film Turner.
L'héritage d'Yves Saint-Laurent.
Voilà, vous avez le casque Yves Saint-Laurent.
Aujourd'hui, sur France Inter.
France Inter, partenaire du Printemps de Bourges du 13 au 18 avril. 6 jours de concert avec M, Cœur de Pirate, Gush, Émilie Simon, Wax Taylor, Vitalik. France Inter et le Crédit Mutuel donnent le la au Printemps de Bourges. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
Il est 16h04, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, Yves Saint-Laurent, avec lui évidemment, on a parcouru beaucoup de monde déjà, un monde large à travers les arts, la mode, depuis ce matin sur France Inter, vous avez entendu la suite jusqu'à la peinture, et nous évidemment c'est Yves Saint-Laurent et la musique. Alors quel rapport ? On peut savoir déjà que Yves Saint-Laurent était proche du ballet, parce que on nous a confié une biographie bien détaillée, par exemple, il y a eu une création de Cyrano de Bergerac au théâtre de l'Alhambra, le 17 avril 1959, chorégraphie de Roland Petit, évidemment c'est d'après Edmond Rostand, musique de Marius Constant. Marius Constant, compositeur français d'origine roumaine, qui a été directeur musical des ballets de Roland Petit, et costume d'Yves Saint-Laurent, distribution Zizi Jeanmaerts, Tessa Beaumont, Daniel Jossi, José Ferrand, et Roland Petit lui-même. Zizi Jeanmaerts a interprété le rôle de Roxane dans cette chorégraphie de Roland Petit, qui a été le début d'une longue collaboration et d'une longue amitié avec Yves Saint-Laurent. Voici un extrait de Cyrano de Bergerac de Marius Constant, La marche des cadets de Gascogne. We'll be right back. Ah, ils sont bien fiers. La marche des cadets de Gascogne tirée de Cyrano de Bergerac, de Marius Constant. On a entendu l'auteur qui dirigeait lui-même, on l'imagine, disons plutôt, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Et tout à l'heure, je viendrai à une autre phase importante de la passion musicale d'Yves Saint-Laurent, c'est Maria Callas, sur laquelle il a écrit des textes bouleversants. Et puis, de toute façon, il n'a pas fait qu'écrire sur elle, il allait l'entendre chanter et la voir très très souvent. Voici maintenant Henri Sauguet, autre compositeur français, et en 1961, à la télévision française, on a repris un ballet qui avait été mis en scène pour la première fois en 1945 au Théâtre des Champs-Élysées, Les Forains. Et Les Forains de Sauguet sont tout à fait célèbres par une fameuse valse. Il y avait un synopsis de Boris Korno, cette musique de Sauguet était rehaussée par des costumes d'Yves Saint-Laurent, et donc c'était pour une première télévisuelle. C'est un ballet d'ailleurs qui a été donné 2000 fois dans le monde et qui a eu un succès international jusqu'en Chine. Voici l'entrée des Forains, mouvement de valse tiré du ballet du même nom, Les Forains, d'Henri Sauguet.